Louez soit notre Dieu. Vous savez ce que le Seigneur disait? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, ne restera pas, demeurera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et il est écrit, celui qui dit qu'il marche dans la lumière et qu'il n'aime pas son frère, il se trompe lui-même. Et la vérité n'est pas en lui. Oh, que toutes les paroles des Écritures puissent devenir une réalité en nous. Qui a ce désir, là, vraiment, d'être, de devenir une Bible vivante qui vit. Vous savez ce que je veux dire? Paul disait, vous êtes une lettre de Christ. Lue de tout homme, de tous les hommes, pas écrit avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Qui veut être une telle lettre, comme ça, vivante, agréable, comme le Seigneur veut l'avoir? Avez-vous aussi remarqué, nous allons tout de suite prier, c'est la raison que je vous demande de rester encore debout. Avez-vous remarqué comment est-ce que ce cantique s'ajuste à tout ce que nous avons déjà considéré jusqu'à maintenant? Certitude céleste. Jésus est mien. Cela inonde mon cœur du rayon de soleil. Né de nouveau, libéré du péché. Enfant de notre Dieu glorieux. Dans 1 Jean, il est écrit au verset 3, au chapitre 3, il n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais nous sommes déjà devenus enfants de Dieu. Mais quand ce que nous serons sera manifesté, alors nous lui serons semblables. Et dans le deuxième couplet du cantique, à tes pieds, ô gloire, quelle gloire, je vois déjà le ciel ouvert pour moi. Qu'est-ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean? Dès maintenant, vous verrez le ciel ouvert. L'a-t-il dit? Il a dit, oui, est-ce que c'est vrai? Amen. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Pour tous ceux pour qui le ciel est ouvert, l'enfer est fermé. Nous, personne ne nous attend en bas, en enfer. Nous sommes attendus au ciel. Au ciel. Amen. Amen. Notre cité est au ciel. Le troisième couplet, veillant et attendant, je regarde vers le ciel, s'il vous plaît, pas regarder en bas, non plus à droite ou à gauche, mais regarder au ciel, vers le haut, veillant et priant, je regarde au ciel jusqu'à que mon âme disparaisse en lui, être sauvé et être devenu un enfant de Dieu et complètement dans la grâce de Dieu, être enveloppé en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui veut déjà sur cette terre vivre cette gloire du salut? Ça existe réellement, ça existe, que des hommes qui sont sur terre sont peuvent être déjà dans l'Esprit de Dieu. Oui, ça existe. Ensuite, ce couplet, être rempli de sa nature entièrement. Je serai transformé alors entièrement à son image. Ça aussi, c'est selon les Écritures. Nous serons changés et nous passons de clarté en clarté et de gloire en gloire. Nous voulons encore, de tout notre cœur, chanter ce cœur en rendant gloire à Dieu par cela, par Jésus notre Seigneur. Ça, je dois le chanter pour la gloire de Jésus. Il est ma gloire, lui seul. Lumière et vie. Rayon de soleil, Oh, toi, mon tout. Toi, toi seul. Ça, je dois le chanter. À Jésus et à Jésus seul. Il est ma gloire, lui. Et lui seul. Lumière et vie. Rayon de soleil. Toi, mon tout. Toi, toi seul. Seigneur et Dieu, il est écrit, celui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur, du Seigneur. Toute la gloire, toute l'adoration, toute la reconnaissance t'appartiennent à toi et à toi seul. Nous te demandons, Seigneur fidèle, la conduite directe de ton esprit. Nous sommes ici rassemblés devant ta face et cette Bible est pleine de la parole de Dieu. Que la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui nous soit accordée. Seigneur, nous te demandons de tout notre cœur cela, car nous avons compris l'importance des choses et de quoi il s'agit. Il s'agit de l'appel à sortir et de la préparation de ton épouse. Que toi, comme époux de nos âmes, tu puisses être parmi nous. Et je te demande aujourd'hui, tel que hier, nous l'avons entendu de ton ouvrier choisi, élu, de ton serviteur et prophète William Marion Branham. Je te demande que tu puisses me mettre de côté pour que personne voie ici un homme devant, mais que tous puissent voir Jésus, écouter Jésus, expérimenter Jésus, Seigneur. Ça, je ne le dis pas seulement. Ça, je le pense sincèrement. Mets-moi de côté pour que personne d'autre soit vu ou entendu en dehors de toi et toi seul. C'est toi qui, sans prophète et sans un apôtre, marchais seul parmi les sept cendriers d'or. Et tu es encore celui qui marche encore aujourd'hui parmi les sept cendriers d'or. Tu qui marches parmi ton peuple, tu parles et tu révèles ce qui est écrit déjà et qui doit nous être adressé dans la plénitude de la foi et étant conscient de ce que nous faisons. Nous te remettons cette réunion sous le sang de l'agneau de Dieu. Et nous déclarons à l'ennemi Satan, tu as perdu tout droit sur le peuple racheté par le sang. Retire-toi et quitte cette salle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tu puisses venir parmi nous et nous faire du bien selon ta promesse. Tu connais les questions, les problèmes et difficultés et quoi qui serait encore. Nous venons à toi et nous te demandons, sois pour chacun aujourd'hui tout, car tu nous es devenu toutes choses. Que nous puissions t'expérimenter ainsi. Que les malades puissent t'expérimenter comme médecin. Ceux qui sont perdus comme sauveurs. Ceux qui sont liés comme celui qui délivre. Et tous ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit comme celui expérimenter comme celui qui baptise d'esprit et de feu. Nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu t'es révélé à nous, toi-même, tu t'es fait connaître et que nous avons la grâce de savoir en qui nous croyons et qui nous parle. Et nous te remercions aussi de ce que tu nous as révélé tous les mystères de la parole de Dieu. Et maintenant, nous te demandons encore que tu puisses nous accorder la grâce de mettre en pratique toutes ces choses que nous avons écoutées, de les vivre et d'être des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique pour que tu puisses produire les mêmes œuvres par nous, telles que toi-même autrefois, tu les as faites. Faire les mêmes œuvres par nous, telles que tu les as faites autrefois. La promesse, nous l'avons et nous nous plaçons sur cette promesse que tu as donnée aux croyants et nous te demandons que tu puisses mettre de l'ordre dans ta maison. Renverser tout ce qui n'a pas sa place dans ta maison. Mettre dehors ce qui ne doit pas être à l'intérieur et te préparer une maison dans laquelle tu peux bien te sentir, qui t'est agréable. Nous voici, agrée-nous, accueille-nous et bénis-nous tous de la plénitude de ta grâce. Dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais, tous ceux qui se sont ajoutés nouvellement, de la même manière, leur souhaiter la bienvenue. Et je vous souhaite les riches bénissants de Dieu de tout mon cœur. Je crois que nous pouvons dire celui qui n'a pas vécu ces derniers jours parmi nous, il a manqué quelque chose, il a loupé quelque chose, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Ce sera sûrement comme ça que cela pourra être écouté plus tard, ce que le Seigneur a fait ici. Et aussi, pour ces choses, nous sommes très reconnaissants. Notre bien-aimé frère de la Norvège, film pour la première fois et nous ne savons pas quelles sont les intentions de Dieu un jour. C'est comme ça que j'ai dans mon cœur. Nous voulons que le message de Dieu encore une fois puisse être apporté au monde entier, vraiment, vraiment au monde entier. Et vous savez que cela est biblique. Nous attendons seulement le temps que Dieu lui a décidé. Abandonnez-vous à cela et ne soyez pas impatients. Ne soyez pas en train de penser, mais qu'est-ce que les frères maintenant font encore? Non, nous avons appris assez que avec nos propres œuvres, avec ce que nous faisons de nous-mêmes, rien n'est fait. Rien n'est fait. Nous avons appris de ne rien faire de notre propre chef, d'attendre au signe du Seigneur, d'attendre à ce qu'il nous dise de faire quelque chose. Et il nous le dira quand le temps sera arrivé pour cela. Donc, je m'attends aussi à cela. Moi aussi, parfois, je suis soucieux et pour ne pas dire un peu inquiet. Et alors, cela parle à mon cœur. Sois calme et tranquille. Tout sera bien. Le Seigneur fera toutes choses bien en son temps. Même si nous portons des responsabilités, en fait, le Dieu Tout-Puissant a déjà pris toute la responsabilité pour son œuvre. Oui ou non? Oui, c'est vrai? Alors, donc, il est le Dieu Tout-Puissant et il fera en sorte que tout se déroulera bien. Comme il est écrit dans Genèse, le septième jour, Dieu a achevé son œuvre et s'est reposé de toute son œuvre. C'est ainsi que maintenant, à la fin du septième âge de l'Église, il achèvera son œuvre et ensuite nous serons auprès de lui pour toujours. Loué soit son Saint-Nom. Nous voulons que tous se sentent bien à la maison, que se sentent à la maison dans le corps et dans l'esprit. Et nous voulons oublier personne, n'avoir oublié personne. Et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu parmi nous. Et nous voulons aussi vous laisser savoir que vous devez vous sentir bien à la maison ici. Le frère Rousse me disait tout à l'heure, frère Franck, j'ai dû dire ce que j'ai dit ce matin. Ce que j'ai dit ce matin. Et j'ai pu que lui répondre, ça venait du Seigneur. J'ai besoin de la main de tous. Amen. 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 Et vous savez, nous l'avons toujours dit, en cet endroit, tout ce qui est prêché et est fait ici et pratiqué doit être placé sur une base biblique. Doit avoir une base biblique. Et c'est pour ça que je vais vous lire là-dessus aussi, les versets bibliques, pour que vous puissiez savoir que ce n'a pas seulement été fait, mais c'était biblique. C'était nécessaire. Et heureux ceux qui l'ont pris au sérieux et qui mettent cela en pratique et qui ne sont pas des auditeurs oubliés. Vous savez, parfois, nous avons l'impression comme si le Seigneur devrait, avec voix de tonnerre, parler pour que, à tel point que nos membres se détachent, pour que nous puissions comprendre ce qu'il a à nous dire. Comprenez cela aujourd'hui, que Dieu, aussi par un vent doux, peut parler avec nous et parle avec nous. Ça ne doit pas toujours obligatoirement être avec une voix de tonnerre, mais ce qui a été dit ce matin et venait du Seigneur, c'était biblique. C'est seulement, ce n'est que de cette manière qu'un réveil peut commencer. Lorsque tout ce qui est entre frères et sœurs a été éliminé, de laisser pousser l'herbe là-dessus, cette expression, nous la laissons aux gens du monde et au peuple dans le monde. Dans la maison de Dieu, l'herbe ne doit pas pousser sur des choses. Là, le sang du Christ, de l'agneau, doit venir sur ces choses. Mais avant que cela soit possible, nous devons reconnaître que déjà le fait qu'il y ait quelque chose entre des frères et des sœurs, cela n'est pas juste devant Dieu. Personne ne peut se lever et dire avec orgueil dans le cœur, « Frère, ne m'en veux pas, cela ne sert à rien du tout. » Là aussi, il faut qu'il y ait une repentance, un regret profond, sincère, opéré par l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas encore vraiment le cas, cela veut dire que l'heure pour nous n'a pas encore sonné. On n'a pas besoin d'aller vers quelqu'un. Nous devons ressentir de la douleur sur ces choses. C'est seulement à ce moment-là que nous nous reconnaissons coupables. Reconnaissons que nous nous sommes rendus coupables. Et ce que je vais lire maintenant, ça aurait pu faire tomber quiconque n'est pas assis sur une chaise. Mais maintenant, nous remercions Dieu aussi pour les chaises que nous avons, sur lesquelles nous pouvons nous asseoir. Je vais vous lire les paroles sérieuses de notre Seigneur de la montagne, du sermon sur la montagne qui devrait être connu de tous. Je crois que le peuple ne connaît pas mieux quelque chose que le sermon de la montagne. La question, c'est seulement, est-ce que nous mettons cela en pratique? Dans Matthieu chapitre 5, je lis à partir du verset 21. Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez appris qu'il a été ordonné aux anciens, tu ne tueras pas. Mais celui qui tuera sera jugé. Qui connaît cette parole dans cet testament? Amen. Nous tous. Bon, c'est bien. Je continue à lire. Mais moi, je vous dis, quiconque se met même en colère contre son frère sera passible du jugement. Avez-vous aussi déjà lu ça? Est-ce que nous connaissons ce verset d'Éphésiens, le chapitre 4? Ne vous mettez pas en colère, ne péchez pas. Vous connaissez vraiment la Bible comme nous devrions la connaître? Ou bien alors, est-ce que nous connaissons seulement les versets qui s'ajustent aux autres, qui sont vraiment mesurés pour les autres, qui s'ajustent aux autres et à leur état et à leur situation? Il y en a parmi le peuple de Dieu, ils ont toujours la mesure pour les autres sous leurs yeux. Ils trouvent toujours le verset adéquat qu'ils pourront employer pour les autres. Dès aujourd'hui, ça ne devrait plus être ainsi. Aujourd'hui, le salut nous a été accordé, apporté. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour faire un nouveau commencement avec lui. Et c'est-à-dire correctement, sur la base biblique. Mais moi, je vous dis, verset 22, Matthieu 5, quiconque se met même en colère contre son frère sera passible du jugement. Et maintenant, écoutez. Et quiconque dira à son frère idiot sera puni par le haut conseil. Et quiconque lui dira insensé sera puni par le feu de l'enfer. Combien de fois nous avons eu des paroles que nous avons prononcées de nos lèvres qui n'étaient pas bibliques? Nous nous sommes portés et avons eu des propos qui ne peuvent pas subsister devant Dieu. Nous sommes laissés emporter à des choses, par des choses qu'aujourd'hui nous regrettons, qui n'étaient pas bibliques du tout. Sincèrement et honnêtement, nous regrettons et nous disons, Seigneur, pardonne-nous, et nous disons aussi aux frères, ou bien à la sœur. Mais maintenant, sur le verset, pardonne-nous, pardonne-moi, mais maintenant, nous venons au verset qui concerne ce qui s'est passé aujourd'hui et qui peut continuer à se passer. Verset 23. Ainsi, lorsque tu apportes ton offrande à l'autel et que tu te souviens là que ton frère a quelque chose contre toi, laisse donc là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis va offrir ton offrande. Reste devant l'autel avec ton offrande et examine-toi toi-même sincèrement. Et si tu reconnais quelque chose, laisse ton offrande là et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens offrir ton offrande sur l'autel. Sommes-nous d'accord avec la parole du Seigneur? Est-ce que nous voulons avoir les choses ainsi dès maintenant, les pratiquer ainsi? Ce serait mieux de ne donner aucun accès aux calomniateurs. Et nous allons aussi venir à parler de ça. Toujours de nouveau, de faire toujours la même chose et puis dire pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis on ne change pas. Et puis toujours pardonne-moi, pardonne-moi. Ça, c'est dans des chaussures d'enfant. Mais si nous avons atteint la stature de l'homme parfaite en Christ, nous devons être capables de discerner les tentatives rusées du diable, l'accusateur des frères, pour pouvoir ensuite lui résister et lui dire rien de moi, Satan, je n'ai rien à voir à faire avec cela. Mais ne pas tout de suite toujours demander pardon, pardon, pardon et ne pas changer, recommencer les mêmes erreurs. Non. Il y a encore un autre verset que j'aimerais lire. Il est dans Jacques, où il est parlé de la persévérance et de la patience. Je voudrais le lire tant que c'est encore dans ma mémoire, car ça appartient à ce sujet du retour de Jésus-Christ. Dans Jacques, chapitre 5, dès le verset 7. Soyez donc patients, bien-aimés frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Frère Rousse parlait déjà de la persévérance, de la patience. Soyez donc patients, frères, bien-aimés frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ensuite, il est parlé de la pluie, de l'avant et de l'arrière saison, etc. Au verset 8, il est écrit, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Si je lis ce verset, alors je pourrais dire Paul, ou bien alors plutôt Jacques, tu l'as écrit la nuit dernière, comme actuel, selon le temps dans lequel comme proche, présent, actuel. Ici, nous lisons ça dans la Bible, et c'est comme si ça a été écrit aujourd'hui, et pourtant ça a été écrit il y a presque 2000 ans. Mais l'Esprit de Dieu savait il y a 2000 ans d'ici déjà dans quel état l'Église, directement avant le retour de Jésus-Christ, se tiendrait et serait. C'est peut-être raison que déjà à l'époque, il a utilisé les hommes de Dieu. Il les a poussés par le Saint-Esprit. Et ils ont dû écrire ces choses. Écrire ce qu'ils avaient à écrire pour nous aujourd'hui. Est-ce que je pourrais écrire différemment aujourd'hui? C'est pas possible. Est-ce qu'un apôtre pourrait écrire différemment? Non, c'est pas possible. Je vais vous dire la vérité. Paul, Jacques écrirait aujourd'hui ce qu'il a écrit autrefois. Pierre, Paul écriront ce qu'ils ont écrit, écriront aujourd'hui ce qu'ils ont écrit autrefois. Pas autre chose. Le Seigneur aujourd'hui dira ce qu'il a dit, ce qu'il disait autrefois. La parole de Dieu est au-dessus de tous les temps. Mais nous reconnaissons que des écritures, des versets particuliers se réfèrent à des événements particuliers. Il y a des situations particulières. Et si nous parlons du retour au Seigneur, alors nous devons employer et chercher et trouver les versets bibliques adéquats pour le retour de Christ et nous approfondir là cela. Je relis encore et je continue avec le verset 9. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, le verset 8, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne soupirez pas les uns contre les autres, frères, de peur d'être jugés. C'est pas seulement que nous ne devons pas avoir quelque chose, nous devons pas avoir quelque chose les uns contre les autres et qu'il ne doit rien avoir à voir entre les uns et les autres. Et on ne doit même pas se plaindre, on ne doit même pas soupirer les uns contre les autres. À peu près votre raison, se plaindre, il faut ouvrir la bouche pour se plaindre. Et quand on remarque, il y a eu déjà assez de soupirs, n'est-ce pas, dans les cœurs. Et alors, si nous sommes maintenant arrivés à la fin, il faut que cela aussi soit éliminé. Qui est prêt, déjà dans ses pensées, dans son cœur, à marcher tout le chemin et à respecter toute la parole et à mettre en pratique tout ce que Dieu ordonne. Même un soupir contre quelqu'un n'est pas permis. En plus, votre raison de se plaindre. C'est seulement comme ça qu'on va atteindre le but. Car Dieu, d'abord, c'est lui qui met en nous le vouloir. Et ensuite, il nous accorde aussi même le faire par sa grâce. Pour que nous lui soyons agréables. Nous lisons dans Éphésiens, comme déjà mentionné, très brièvement, Éphésiens, chapitre 4. Ici, cela est adressé à ceux qui sont déjà nés de nouveau et même sont déjà scellés du Saint-Esprit. Et malgré tout, et ce rappel à l'ordre, et cet ordre est donné à tous. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Ainsi donc, je dis ceci et je prononce dans le Seigneur ce sérieux rappel à l'ordre. Pas seulement un rappel à l'ordre, mais un rappel à l'ordre dans le Seigneur. Une correction prononcées dans le Seigneur, poussées par le Saint-Esprit, conduites par le Saint-Esprit, étant conscient que c'est le Seigneur qui parle par moi et que c'est lui qui dit à son peuple par ma bouche ce qu'il veut lui dire. Avons-nous compris cela ici? Ce n'était pas la parole des prophètes et des apôtres, c'est la parole du Seigneur. Ainsi donc, je dis ceci et je prononce dans le Seigneur ce sérieux rappel à l'ordre. Ne marchez plus comme les païens dans la vanité de leurs sentiments, car ils sont obscurcis dans leurs pensées, éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui les habite, à cause de l'obstination et l'endurcissement de leur cœur. Et ensuite, il est énuméré ce qui est lié à cet endurcissement, à cette obstination. Complètement morts moralement, ils se sont livrés à la vie de plaisir pour commettre toutes sortes d'immoralités combinées à la convoitise. Ça, c'est la description des incroyants. Maintenant, suit le rappel à l'ordre, l'instruction adressée aux croyants. Au verset 20. Mais vous n'avez pas connu ainsi le Christ. Si tel est le cas, que vous ayez entendu parler de lui et que vous ayez été instruit en lui comme cela est vrai en Jésus. Il y a au moins deux différentes instructions. Une instruction vraie et une instruction fausse. Peut-être qu'il y a beaucoup de fausses instructions et une seule qui est vraie. Et cette unique instruction qui est vraie et qui est en Christ, c'est l'instruction qui est dans la parole, selon la parole, car il est la parole. L'instruction en lui, alors, est selon la parole, et la parole, alors, devient chère en nous, et nous nous identifions à chaque parole de Dieu. Ensuite, suit, à partir du verset 22. Car, selon votre ancienne manière de vivre, vous devez vous dépouiller du vieil homme qui va vers la mort par suite de ses convoitises trompeuses, pour que, en revanche, vous soyez renouvelés dans votre âme comme il se doit, afin de revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la vraie justice et la pureté. Ça, ce sont les Saintes Écritures. Et nous sommes aussi instruits dans ces choses que ce ne sont pas tous qui vont mettre ces choses en pratique, qui ne vont pas expérimenter et écouter ce que l'Esprit dit à l'Église par la parole. Au contraire, ils vont chercher des excuses et des prétextes de toutes sortes de manière. Mais il y a un groupe sur terre qui met la parole de Dieu en pratique, qui la respecte, qui dit oui à la parole de Dieu, qui ne sont pas des auditeurs oubliés. Et si cela ne nous a pas encore réussi, et je pense que c'est le cas, personne de nous aura pu réussir d'avoir mis vraiment toute la parole de Dieu en pratique comme le Seigneur l'exige. Nous sommes sincères et honnêtes avec nous-mêmes et cela doit rester ainsi. D'être honnête et être sincère. Mais de la même manière, nous témoignons que Dieu a assez de puissance pour nous transformer, comme il est écrit ici, à l'image de, à son image, dans la vraie justice et la pureté. Il y a une parole dans l'Apocalypse qui, dans les derniers jours, reçoit sa réalisation Cela maintenant directement avant le retour du Seigneur, cela devrait être dans Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 10. Et je vous demande d'être attentif et d'observer et de remarquer que ici, cela est décrit après l'ouverture du livre et pas avant l'ouverture du livre. C'est après l'ouverture du livre que cela est décrit ici. Je lis Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 10. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Qu'est-ce que nous avons entendu et dit dans ces jours passés? Le temps est proche et ensuite, subitement, il est là. Autrefois, il y a presque 2000 ans d'ici, le temps était proche. Mais aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, le temps est là. Et nous savons déjà ce qui est écrit au verset 11. Que celui qui fait le mal continue à faire le mal. Et que celui qui se souille continue à se souiller. Mais que le juste continue à pratiquer la justice et que le saint continue à se sanctifier. Cela arrive, peut-être que le temps est déjà là, Dieu peut exactement le déterminer. Mais il y a un temps, comme frère Branham l'a prêché dans le sujet les âmes qui sont en prison, que les hommes ne pourront plus. Aujourd'hui, ils peuvent encore, ça je le crois. Mais il y a un temps où ils ne pourront plus. Celui qui est souillé reste souillé. Celui qui est impur reste impur. Et celui qui fait le mal continuera à faire le mal. Et celui qui est injuste continuera à être injuste. Mais celui qui est juste continuera à pratiquer la justice. Et celui qui est saint continuera encore à être sanctifié entièrement, entièrement. Et cela a lieu maintenant, aussi, cela a lieu maintenant. Le juge continue encore plus à pratiquer la justice. Autrefois, le temps était proche, mais maintenant, le temps est là. Parce que c'est ainsi, nous devons aussi toucher toucher des domaines de la vie terrestre. Sinon, cela pourrait arriver que quelqu'un repart dans la maison et dit, bon, bien-aimée femme, tu sais, maintenant le temps est maintenant sérieux, maintenant tu me laisses tranquille, ou bien alors la femme pourrait dire à son mari, cher mari, tu sais, le Seigneur revient bientôt et le temps est là, maintenant, alors, donc, dès maintenant, nous sommes que des frères et des sœurs, ne m'en veux pas. Je vais avec esprit lire des Saintes Écritures, et je vais vous dire aussi, pour quelle raison? Pour que, jusqu'à la fin, nous puissions rester sobres et normales. Et qu'aucun homme devienne un insensé ou bien un fou ou bien alors et apporte de l'opprobre et de cette manière et la honte sur les choses de Dieu. Vous savez, il y a différentes sortes d'esprits. Mais qu'un seul Saint-Esprit et ces différents esprits-là crache au vrai sens du mot partout. Et puisque ces esprits-là, sans homme, ne peuvent rien produire comme dégâts, alors ils utilisent des hommes et ils se choisissent ceux qui sont les plus considérés parmi les croyants. Et alors ils ont une apparence de piété extrême et ils vont de porte en porte et produisent des dégâts partout. Sobriété est normal, de rester normal et sobre jusqu'à la fin. C'est très important. Vous savez ce que je me suis, cet après-midi, pris comme intention en venant ici. J'ai tout un rassemblement de photos avec Frère Branham. Et puis et là, on le voit en habit de cow-boy, en chapeau. Là, on le voit être en train d'aller à la pêche. On le voit dans les différentes choses du domaine terrestre, des domaines terrestres. Peut-être que ça vous ferait du bien de voir et de tourner un tel album et de savoir que nous devons rester sobres et clairs et vrais en toutes choses. Avoir deux pieds sur terre jusqu'à la fin. Et tout laisser dans les différents domaines où ils ont la place d'être, où c'est leur place. Je vais vous lire cette écriture. C'est peut-être comme ça pourrait être comme un paradoxe ou bien une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Et remarquez que l'Esprit de Dieu veut que jusqu'à la fin, de toute manière, nous restions sobres et normales. Et qu'aucun homme dise, maintenant j'ai plus besoin d'aller au travail, le Seigneur revient. C'est justement là que tu dois être zélé dans le travail. Si tu t'attends au retour du Seigneur, sûrement pas dans ta paresse. La sobriété, être sobre et normal jusqu'à la fin, avoir deux pieds sur terre. Aucune mère et aucun père ont le droit non plus de dire, « Oh, ma fille, mon fils, le retour du Seigneur est proche, tu peux rester seul. » Tu n'auras pas besoin de te marier. Pourquoi vous n'êtes pas resté seul si vous conseillez aux autres de rester seul? Pourquoi vous êtes marié? Non. Arrêtons avec toutes ces prescriptions que nous donnons aux autres et je vais vous dire comment elle a connu Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle a connu Saint-Esprit, c'est un chemin personnel de Dieu avec toi seul. Là, une tierce ou bien une quatrième personne n'ont rien à dire. Ton chemin est ton chemin avec Dieu. Fini, point, amen. Et mon chemin est mon chemin avec Dieu. Amen. Je ne te demande pas de marcher sur mon chemin et je n'attends pas non plus de toi que tu viennes à moi et que tu dises, j'aimerais faire comme toi tu as fait. Non. Nous remettons à Dieu et nous n'apportons personne dans des problèmes. Combien de gens sont apportés par des problèmes, dans des problèmes sans que cela soit nécessaire. Comme Luther disait, si je sais que le Seigneur revient demain, aujourd'hui, je planterai encore mon arbre. Celui qui veut se marier, qu'il se marie. Celui qui veut faire son bac, qu'il fasse son bac. Celui que chacun fasse comme ce qu'il veut faire, mais avec la seule différence. C'est que nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons et que tout ce que nous faisons, nous le faisons selon la parole de Dieu et que nous savons que le retour du Seigneur est proche. Je lis ce verset de Timothée pour que vous puissiez savoir que dans les derniers jours, il y aura des démons, des mauvais esprits qui existeront. Et croyez-moi, ne croyez pas que ces esprits-là restent dans les bâtiments de l'église catholique romaine, hein, ils restent là-bas. Non, ils sont partout, et pas seulement là-bas, où il y a des tours avec des cloches, mais aussi là où il n'y en a pas. Dans 1 Timothée chapitre 4, il est écrit concernant la fin des temps. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit annonce expressément que dans la suite des temps, quelques-uns abandonneront la foi. 1 Timothée 4, verset 1. Parce qu'ils se tourneront vers des esprits séducteurs et des doctrines, des esprits séducteurs et des doctrines qui viennent des démons. Trompés par la conduite hypocrite de menteurs qui portent la marque de la culpabilité dans leur propre conscience. Ce sont ceux qui interdisent le mariage et l'abstinence de nourriture que Dieu a pourtant créée pour que ceux qui croient et tous ceux qui ont connu la vérité en jouissent avec reconnaissance. Des esprits pieux ne sont pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas par une tante ici ou bien par un oncle là-bas. Le Saint-Esprit parle par la parole de Dieu à nous tous, sur chaque sujet, en tout temps. Je n'ai pas besoin d'une tante ou bien d'un oncle qui vienne à moi et qui me dise, Dieu lui a révélé ceci et cela. Oui. Oui. Le frère Kier dit, c'est ainsi. Et c'est ainsi que ça reste aussi. Avons-nous compris cela? Ce n'est pas un qui dise à l'autre, c'est ton chemin. C'est le chemin que tu dois suivre. Non, le chemin que Dieu te conduit, c'est ton chemin. Va, suis ce chemin avec Dieu. Mais le chemin d'un autre est le chemin d'un autre. Et pas ton chemin non plus. Laisse-le à Dieu. Avons-nous compris cela? Donc, alors, les choses vont un peu mieux pour nous. Maintenant, nous passons à l'épître aux Corinthiens. Et ici, Paul m'impressionne. Il met les points sur les i. Ici, c'était un homme duquel nous savons tout ce qu'il a dit. Je souhaiterais que vous resteriez tous comme je suis. Et malgré tout, il a ici, dans un seul et unique chapitre, dit deux choses et je voudrais vous les lire. D'abord, cette partie qui bientôt va s'accomplir, sera à mettre en pratique, sera en vigueur, et aussi l'autre partie pour avoir l'équilibre. Lequel des frères qui parlait de l'équilibre et de la balance? On doit sur une balance, sur les deux côtés, mettre les mêmes poids. On ne peut pas, comme ça, avoir une balance qui est penchée. Car une balance penchée est une abomination à Dieu. Ici, dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29. Mais je vous le dis, frère, le temps est encore court, car ceux qui ont une femme doivent, dans la suite des temps, faire comme s'ils n'en avaient pas. De même, ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils ont acheté. Bon, une belle parole, nous avons tous entendu. Le temps, bien-aimés frères, Paul écrit ici par l'Esprit, de tout son cœur, ça je vous le dis, bien-aimés frères, le temps est encore court, est court, car ceux qui ont une femme doivent, dans la suite des temps, faire comme s'ils n'en avaient pas. Qui me croit que je sais quand est-ce que ce temps arrivera? C'est difficile. Très difficile, n'est-ce pas? Il dit dans la suite des temps. Quand? Je ne veux pas maintenant être assis à votre place là-bas. Une question très difficile. Si je demande ou bien je pose la question que je connais le temps. Si je dis que je connais le temps, je vais vous lire. Quand est-ce que ce temps arrivera? Vous pouvez vous-même le dire. Quand ce sera que ceux qui pleurent sont comme s'ils ne pleurent pas et ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissent pas. Et ceux qui achètent comme s'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont acheté. Alors ce sera aussi le temps pour le verset 29. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces choses car l'heure ne semble pas être mûre pour cela, mais nous allons revenir à cela. Nous lisons maintenant dans 1 Corinthiens 7 à partir du premier verset. Et aussi, ça, c'est écrit dans la Bible. Il y en a qui ont une telle apparence de sainteté, ils sont tellement saints que un tel chapitre ne les concerne pas, n'est-ce pas? Et ils ne savent pas du tout que ce n'est même pas le cas. 1 Corinthiens 7, dès le premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ensuite suit cette chose que nous devons lire à cause de ceux pour que cela concerne, pour qu'ils puissent prendre ça au sérieux. Que le mari rende à sa femme les devoirs du mariage, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas le droit de disposer de son propre corps, mais son mari, là. De même, le mari n'a pas le droit de disposer de son propre corps, mais la femme. Un tel foyer, je le souhaite à tous qui veulent subsister devant Dieu, qu'une telle harmonie divine déjà ici sur cette terre existe, puisse exister, que l'un sans parole puisse savoir ce que l'autre veut, ce que l'autre désire, sans parole. Lire ça sur le visage. Est-ce que ça c'est encore l'évangile? Est-ce que ça c'est encore l'annonce de la parole de Dieu? Mais oui, certainement. Oui. Oh oui. Aller dans un couple, dans un foyer, dans lequel il y a des disputes dans la maison, à la maison, cela est un obstacle pour l'autre sur le chemin qui mène au ciel. J'oublie pas les paroles d'un homme âgé de 80 ans. Il me l'a dit avant son décès, mais enfin, je préfère ne pas mentionner. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Qui de vous tous qui sont déjà mariés et qui veulent aussi se marier, se souhaite un tel couple, un tel foyer dans cette harmonie divine telle que Dieu l'a voulu au commencement? Les jeunes frères et sœurs n'ont pas dit amen. Ils sont pas encore, c'est pas encore clair pour eux quelle responsabilité est liée au mariage. Pourquoi est-ce que je lis ces choses, tout cela? Pour nous montrer que toute notre vie appartient à Dieu, est la possession de Dieu. Et s'il y a des troubles dans le couple, dans le foyer, alors ils sont aussi dans la famille. Et s'ils sont dans la famille, ils sont aussi dans l'église. Alors les troubles sont partout. Alors par cela, le diable est parmi nous. Alors qu'il a perdu tout droit, une fois pour toutes, sur nous, femmes et hommes, soumettez-vous aussi dans ces choses, sous la main puissante de Dieu. Sous la main puissante de Dieu, comme dans 1 Pierre 5. Le temps est là. Et ce point doit être aussi prononcé. Combien de fois, très souvent, les maris sont intraitables, farouches, sévères, stricts. Et par cela, il y a beaucoup de chagrin d'amour, de douleur et de cœur blessé. Cela peut être aussi le contraire, mais cela doit prendre fin. Nous voulons servir Dieu. Et ça, nous le pouvons seulement s'il n'y a aucun obstacle sur nos chemins. Si aucun obstacle sont là, qui sont prêts à ôter les obstacles du peuple de Dieu et de dire aussi pardonne-moi, etc., etc. Qui est prêt à aller vers l'autre et dire pardonne-moi? Cela aussi a sa place et va à cela. Mais quand la demande de pardon doit changer, alors l'autel familial sera rebâti, le couple pourra prier ensemble. Et si les familles sont bâties et pas détruite, l'église sera aussi bâtie, édifiée. L'une va avec l'autre. L'église est constituée de familles. Alors il y a la paix à la maison et la bénédiction dans l'église du Dieu vivant. Et ça, nous le voulons tous. Est-ce que je dois vous dire ce que je me souhaite aussi? Un seul amen ne m'a pas suffi. La parole de Dieu nous donne sur chaque sujet la réponse claire. Et remarquez quel équilibre est rétabli ici. Dans un même chapitre, Dieu il disait au verset 29, « Mais bien aimé, je vous dis, le temps est encore court. » Dans un seul chapitre, les deux choses sont dites. Est-ce que vous avez vu comment l'équilibre est rétabli? Je vais encore lire, vous montrer un verset. Il va réellement vous secouer. Bon, on devrait... Ça ne devrait pas être possible, mais aux élus, et ça, j'aimerais le souligner ici. Les élus, Dieu ne peut pas et Dieu ne va rien imputer aux élus. Et frère Branham, n'est-ce pas, dans cette certaine prédication, mariage-divorce, il a dit vous avez fait ces différentes choses, vous avez eu ces différents problèmes à cause d'un mauvais enseignement. Il n'y avait pas d'enseignement juste sur ces choses qui avaient été apportées, sur le mariage, sur le couple, sur le foyer. Et il disait lui-même, moi aussi, je ne l'ai pas su auparavant. Lui aussi, cela lui a été révélé. Mais regardez le contraire maintenant. 1 Corinthiens 7, verset 8. Mais aux célibataires et aux veuves, je dis, ils font bien de demeurer comme je le suis, moi aussi. Mais s'ils ne peuvent vivre dans l'abstinence, qu'ils se marient et que les veuves se remarient, car mieux vaut vivre dans le mariage que de s'enflammer. Bon, ça aussi nous le comprenons tous. Même aussi les sœurs ont un cœur et elles ressentent aussi quelque chose. Donc, écoutez ce qui est écrit dans Timothée. Je vous le lis maintenant. 1 Timothée, chapitre 5, dès le verset 9. 1 Timothée, chapitre 5, à partir du verset 9. Une veuve ne sera pas inscrite sur la liste des veuves à charge à l'Église, à moins qu'elle n'ait au moins 60 ans et qu'elle n'ait été la femme d'un seul homme. Et est bien attestée, par les bonnes œuvres dans la mesure où elle a élevé des enfants, exercé l'hospitalité envers les étrangers, laver les pieds des saints, porter secours aux affligés, en général poursuivre promptement les bonnes œuvres de toutes sortes. Une fois, il dit qu'elle puisse rester telle qu'il est et le font bien, Paul donc. Et ensuite, il dit si elles ne le peuvent pas, qu'elles puissent se marier, se remarier. Ensuite, il dit, mais si elles se sont remariées, elles ne sont pas à la charge de l'Église. L'Église n'est pas responsable de leur subsistance. Vous remarquez de quoi il s'agit ici? Aussi là, pour toutes choses, l'équilibre est créé. Et on doit toujours lire ces Écritures dans le contexte exact. Quand est-ce qu'il s'agit de quoi? Et ça, c'est toujours la question. Pas seulement d'ouvrir la Bible et ensuite de lire quelque chose, ou bien alors seulement un verset, par exemple, non. Mais de lire toutes les Saintes Écritures, spécialement quand on lit un chapitre, par exemple, et, ou bien alors ce qui est traité dans ce chapitre, qu'on puisse le lire dans le contexte dans lequel tout cela est écrit. Très important. Et c'est seulement comme ça qu'il n'y aura pas de douleur, de problème. Chacun recevra ce qui lui revient de plein droit. Car Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et l'un peut ici et l'autre là-bas avoir des manquements. Mais Dieu, lui, il a pour tous, pour tout, pris soin de toute manière. N'êtes-vous pas heureux pour cela? Alors, donc, rester sobre et clair et normal jusqu'à que le Seigneur revienne. Je le répète encore une fois, planifie ta vie comme si tu l'aurais encore devant toi des centaines d'années. Qui peut de nous donner la garantie que le Seigneur revienne cette année? Tout semble en avoir l'air. Et c'est la première année avec laquelle je m'attends dans mon cœur à 100% au retour du Seigneur Jésus-Christ, au retour. Mais je peux dire, mais est-ce que je peux dire ou bien alors prétendre que cela sera ainsi? Peut-être que ça durera encore 10 ans. Ça, je ne le sais pas. Mais je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il me redonne, c'est ce qui me donne ce sentiment, qui m'a mis ce sentiment dans le cœur de l'attendre et que cette attente est réelle. Et avec cette attente dans le cœur, sûrement que on réfléchira bien avant de prendre un chemin ou bien alors de prendre des décisions. On sera conscient, n'est-ce pas? On ne les prendra pas à la légère. On sera conscient de la conséquence que cela peut avoir lieu, peut avoir, pardon. Mais quand on prend des décisions, on doit les prendre si on peut en être responsable devant Dieu. Si on peut prendre la responsabilité devant Dieu. Vous savez, vous avez écouté mon témoignage alors que ici, à l'hôpital de la ville, ici, j'avais été apporté et qu'on m'avait mis dans la pièce où les patients meurent. Et à ma droite et à ma gauche, il y avait un rideau. Et à côté de moi, à droite, il y avait quelqu'un qui était en train de mourir, un homme. Et il était en train de combattre. C'est son dernier souffle. Et il maudissait et il criait et il disait toutes sortes de choses alors qu'il apportait son dernier souffle. Et je savais aussi que mon heure avait frappé, était venue, avait sonné. On le ressent très, très bien. Subitement, on sait très bien qu'on est en train de partir. Et je voulais seulement dire, quoique je ne pouvais plus parler, même pas ouvrir la bouche, mais je voulais seulement demander, Seigneur, dans quel état je suis devant toi? Ça, ce fut la dernière question que j'avais. Alors qu'on m'avait mis dans la pièce pour mourir. On m'avait mis dans la pièce pour mourir. Et vous savez, au prochain moment, à la prochaine seconde, je me suis retrouvé devant un ciel ouvert, sorti de mon corps. Je ne suis pas quelqu'un de spirituel. Il y en a qui reçoivent continuellement des... Et chaque nuit, ou bien ils ont deux, trois songes, etc. Ils voient des vies. Moi, je ne peux pas rendre ce témoignage. Mais ça a été l'un des témoignages les plus glorieux que j'ai fait. Des expériences que j'ai fait avec mon Dieu. Alors que là-bas, sous ce ciel bleu glorieux, et que je regardais à droite et que je voyais cette troupe, tous habillés en blanc. Et comment est-ce que tous... Nous étions pris comme ça et on montait, pas comme une fusée. J'ai lu il n'y a pas longtemps avec combien de vitesse les fusées décollent. En entendant ça, j'ai dit quoi? Je sais que même un avion déjà vole et décolle avec 350 km/h, mais les fusées encore plus rapides. Et nous, dans cette expérience, on est monté comme ça, doucement, doucement, mais de manière majestueuse, dans un ordre glorieux. On montait et toujours plus haut, et toujours plus haut, et toujours plus haut, monté, porté. On était comme porté. Et ça, je l'ai dit, je ne le dis pas parce que frère Branham l'a dit, je l'ai dit parce que je l'ai vu. Tous étaient jeunes, tous étaient habillés en blanc. Tous étaient dans la fraîcheur de leur jeunesse. Et la dernière personne n'était pas plus loin que moi, que ma main droite, que vous pouvez voir ici. Pas plus éloigné que ma main droite. Nous nous regardions toujours l'un l'autre. Et pendant que nous nous regardions, des vagues de joie inexprimable, glorieuse, et de bonheur inexprimable nous pénétraient. Pour la première fois, j'ai remarqué ce que Pierre a voulu dire quand il écrit et quand il parle de cette joie merveilleuse et glorieuse dans 1 Pierre chapitre 1 et de cette joie merveilleuse et gloire et glorieuse. Et une joie qu'on ne peut exprimer. Un sentiment de gloire accomplie, réel. Cela n'existe pas sur terre, je vous le dis, cela n'existe pas sur terre. C'est à des millions de kilomètres éloignés de ça. Je suis reconnaissant à Dieu pour de telles expériences. Et je n'ai pas honte non plus de dire que j'étais au premier rang et que j'avais, c'est pour cette raison, un très bon aperçu. Surtout, j'avais un très bon aperçu. J'étais au premier rang et ça allait un peu comme cambré. Ce n'était pas une ligne droite, c'était comme ça un peu cambré, comme le firmament. Et je pouvais voir le dernier comme ça, là-bas loin, comme si, et pourtant il était comme à côté de moi, et Là-bas, il y a plus de fin. Il n'y a pas de distance. C'est infini. On ne peut pas expliquer cela. Et ça, je vous l'ai dit, dans cette dimension, alors que j'avais vu la pyramide ensuite en cristal descendre et se placer sur cette ligne de séparation et un peu aussi comme ça, cambré à l'intérieur. J'ai vu cela clairement comme je vois la Bible ici maintenant devant moi. Je n'avais pas besoin de lunettes. Ça, je peux vous le dire. Dans cette dimension, on voit les choses. Je vous le dis comme c'est. Alors que Jean était sur l'île de Patmos, Jean, et que le ciel s'était ouvert, et qu'il vit des visions, il reçut des visions divines. Il vit des choses qui étaient quelque part. Mais il les voyait très clair devant lui. Et ça aussi, je peux le rendre comme témoignage. J'étais un regard à l'intérieur. Et je me suis attendu à ce que quand on allait arriver à cette ligne de séparation sur laquelle la pyramide s'est déposée, je me suis attendu à voir le Seigneur, à rencontrer le Seigneur. Et je vous dis, j'ai vu une lumière qu'on n'a jamais vue sur terre. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux essayer peut-être, comme pour vous, de la Suisse et de l'Autriche. Quand vous avez de la neige qui vient de tomber, qui vient à l'instant même de tomber, et que que vous vivez le lever du soleil, et quand le soleil brille sur cette neige qui vient de tomber, qui vient, alors ça brille, et c'est comme si ça vit et ça se meut. Vous connaissez tous cela. Et c'est comme ça que c'était cette lumière. Elle était pénétrée de vie. Elle vivait, c'était une lumière qui vivait. Et je voyais que ça venait pas de partout, cette lumière. Elle venait d'un point central bien précis, mais passait par cette pyramide, pénétrait cette pyramide et brillait dans le monde entier. Je vous le dis, quand la nouvelle Jérusalem descendra, où l'agneau sera le soleil et la lumière de cette ville, alors on n'aura plus besoin de ce soleil. Alors lui, il brillera. Dans toute éternité. Ça, ce ne sont pas des histoires. Ça, c'est une réalité divine. Loué soit le nom du Seigneur. Nous vivons dans les derniers temps, dans les derniers jours. Mais s'il vous plaît, restons sobres et normales. Sobres jusqu'à la fin. Celui qui va à l'école, qu'il aille à l'école. Celui qui apprend un métier qu'il apprend bien et sobrement pour qu'il ait de bonnes notes. Si on se moque des croyants, alors ce n'est pas à cause des mauvaises notes. Ça, cela ne serait pas bien. Non. Tous ceux, du plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'au plus âgé, plus jeune ou plus âgé, restez sobre et normal en toutes choses. Veillant et attendant, je regarde vers le ciel jusqu'à que mon âme disparaisse en toi, en lui. Ne pas commencer à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Et spécialement, ne rien dicter à quelqu'un, même pas un petit mot. Ou bien ordonner, ou bien dire quoi que ce soit. Que chacun marche avec Dieu. Mais avec Dieu, et prenne les décisions avec lesquelles il pourra mourir et vivre. Ça, c'est ma nouvelle phrase. Seigneur, que je puisse seulement prendre des décisions avec lesquelles je ne pourrai pas seulement vivre, mais avec lesquelles je pourrai à chaque instant mourir et subsister devant toi et apparaître devant toi. Est-ce que vous pouvez me comprendre quand je dis cela? Vous comprenez ce que ça veut dire? Prendre des décisions avec lesquelles on peut vivre et avec lesquelles on peut mourir. De telles décisions que Dieu puisse nous les accorder et nous les donner. Et si ces décisions-là sont selon les Écritures et sont retrouvées dans la parole et sont en accord, et sont en accord avec les Saintes Écritures, alors nous n'avons pas besoin de charger notre conscience par qui que ce soit. Nous nous dirigeons d'après la parole de notre Dieu. Conduisons d'après ta parole et pas d'après des traditions humaines et des coutumes et des opinions humaines. Peut-être que cela n'a pas sa place ici. Vous savez que sinon, je ne parle pas de ces choses. Avez-vous déjà entendu comme un prédicateur de morale? Non. Oui ou non? Non. Jamais. Dieu m'a appelé à prêcher sa parole. Et spécialement en relation avec les prophéties bibliques. Dieu ne m'a pas établi comme docteur pour régler les choses des assemblées locales. Ça, vous le savez exactement. Et ça, le Seigneur aussi me l'a dit audiblement, à haute voix. Ne fonde pas d'église locale et n'édite pas de livre de cantiques. Car ça, c'est la marque d'une dénomination, le signe d'une dénomination. Et aussi en ces choses, j'ai été tout de suite mal compris. Alors, il y a différents frères qui sont venus et qui ont dit, mais donc, ça veut dire que nous n'avons pas le droit, ça va pas... Non, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe avec vous? À qui est-ce que le Seigneur l'a dit? C'est à vous, bien à moi. Comme je suis reconnaissant pour notre frère Pézal, pour nos frères Baranowski, et qui ses frères, de ce qu'ils sont restés sobres, frère Müller, ou tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une église, qui vous accorde des âmes, de qui vous pourrez prendre soin. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est une chose entre moi et lui. Mais si les gens deviennent manquent de sobriété et disent, ça veut dire que nous n'avons pas le droit non plus d'avoir... de conduire une assemblée locale, etc. Non, vous devez faire ce que Dieu vous a ordonné de faire. Il vous a appelé pour prêcher sa parole. Et notre frère, n'est-ce pas, m'a raconté qu'il y a des fanatiques dans le monde entier. Je remercie Dieu aujourd'hui pour tous les frères dans le ministère qui sont restés sobres et normales. Que Dieu les conserve, nous les conserve jusqu'à la fin. Amen. Nous pensons aux frères Genton, à beaucoup de frères dans beaucoup de pays qui sont restés sobres et normaux et clairs. Mais quand on entend parler de ce pape à pilule, vous savez, je ne peux pas le voir. Je n'en peux rien. Je n'en peux rien. La révélation de Christ en moi est contre l'antichrist à tel point que, et ça je ne le regrette pas, c'est l'esprit de Christ en moi. Je n'en peux rien. Mais quand on lit que justement les usines de pilules appartiennent au Vatican, alors on remarque comme grande est l'hypocrisie. Et d'une telle hypocrisie que Dieu nous en préserve. Il parle de contraception. Et qui a lu, je l'ai lu, contraception. 6 000 crânes d'enfants ont été trouvés dans un monastère à proximité du Vatican quand un grand étang a été vidé là-bas. Pas ainsi, pas de cette manière. Fini le faux christianisme avec une propre justice bidon et revenir à la piété, à la sobriété en toutes choses. Ne vous inquiétez pas. Dieu est un Dieu qui a pensé à tout. Et ne me comparez pas avec cet homme au Vatican. S'il vous plaît. Ce sont deux sortes de langage. Et moi, j'ai le langage de Dieu, de mon cœur, de mon Seigneur. Le langage de mon Seigneur a parlé. Mon Père n'est pas là-bas, mon Père est au ciel. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La sobriété en toutes choses. Être normal. Paul n'a pas dit, si vous voulez avoir des enfants, mariez-vous. Il a dit, si vous ne pouvez pas vivre dans l'abstinence, mariez-vous. Ça, c'était un saint homme, n'est-ce pas, frère, l'apôtre Paul? Un saint homme. Oui, c'était un vrai saint homme. Ça, c'était pas un soi-disant saint, c'était un saint homme. On n'a pas besoin de parler plus clair que ça. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin et cet après-midi, ici aujourd'hui? Nous avons parcouru l'assemblée, l'enseignement de la Bible, dans l'espérance et la confiance que Dieu, par toutes ces paroles-là, nous parle et que jeunes et adultes, que nous soyons concernés ou pas, que nous parlions tous le même langage. Et cela doit être le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est le langage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il ne dira pas autre chose que ce qu'il a dit autrefois. Et pour finir, la parole merveilleuse de Tite, dans Tite, comme dernière parole pour que aussi ici, la pierre de fête ne manque pas. Tite, chapitre 2, du verset 11. Car la grâce de Dieu apparut, apportant le salut à tous les hommes, afin de nous éduquer à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à mener une vie prudente, juste et pieuse déjà dans le siècle présent. Avons-nous aussi écouté cela? Entendu cela? Regardez quel équilibre vient dans l'annonce de la parole de Dieu. Ne pas être sans retenue, pas de liberté pour les insensés. Les limites sont fixées pour le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Et ces limites-là, ces paroles-là de la parole, ces limites-là de la parole de Dieu n'ont pas le droit d'être transgressées. Et ces paroles-là non plus. Avons-nous compris cela? La vie d'un croyant se déroule dans les limites de la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne voyez pas de propre liberté ou limite ici. Et c'est là aussi que c'est passé. Dieu a assigné à la femme ses domaines et lui a donné certains ordres et décrets et instructions en cours de route. Et le même Dieu a fait la même chose avec le mari. Et si parfois il y a des différences qui apparaissent, alors Dieu savait dans sa préscience pourquoi est-ce qu'il a décidé cela ainsi. Sœur, ne soyez pas offensé. Dieu a su mieux les choses. Nous lisons à partir du verset 13. Tite 2, verset 13. Attendant ainsi notre bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Une question. Est-ce qu'on peut vivre pieusement dans le mariage? Ah ben, très certainement. Peut-être même mieux que sans mariage. Amen. C'était un peu trop bas, frère Schmitt. Je continue à lire le verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et après cela, il est écrit, dis-leur ces choses, rappelle-les à l'ordre, les exhortant à les faire et parle à leur conscience avec toute l'insistance nécessaire. Que personne ne te traite avec mépris. Des paroles de Dieu restent paroles de Dieu. Nous avons sur le sermon de la montagne, nous n'avons pas continué à lire. Notre Seigneur dit, vous savez ce qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme mariée avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. C'est ainsi que le Seigneur endurci la chose. Ta femme t'appartient et elle t'appartient à toi et à toi seul. Malheur à l'homme qui la convoite et malheur à la femme qui par son vêtement se présente de manière à provoquer la convoitise. C'est pour ça qu'il est écrit. Car les fornicateurs et les adultères, Dieu les jugera. Hébreux 13, verset 4. Nous allons juger le monde. Mais ces deux choses-là seront jugées par Dieu, la fornication et l'adultère. Donc, de nouveau ici, l'équilibre que Dieu en nous et dans sa parole a donné. Qu'est-ce que Job a dit dans Job 31, verset 1? J'ai fait une alliance avec mes yeux pour ne pas regarder avec convoitise une vierge. Frère, nous voulons faire une alliance avec Dieu dans une justice, une pureté et une sainteté véritable devant notre Dieu. Alors, il sera avec nous et il nous bénira par sa grâce. Loué et exalté soit son saint nom. Vous pouvez tous dire Amen. 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 Levons-nous pour ensemble remercier le Seigneur. Aussi maintenant, nous chantons comme souvent tel que je suis sans rien de moi. Tel que je suis sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle agneau de Dieu, je viens. Qui veut dans son cœur expérimenter cette sanctification nécessaire pour vraiment mettre la parole de Dieu en pratique. Nous disons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et le Seigneur nous aidera. Si nous sommes prêts, si nous voulons, lui, il le veut, certainement. C'est lui qui a déjà mis en nous le vouloir. Le vouloir. Et c'est lui qui accorde aussi sa grâce pour le faire, pour que nous soyons agréables. Louez ça son saint nom. Nous levons encore nos mains et chantons encore une fois, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle agneau de Dieu, je viens. Père céleste, nous voulons subsister devant toi, pas seulement devant les hommes, mais en ce matin glorieux, quand Seigneur, tu reviendras, nous voulons être présent, prendre part comme une épouse justifiée, sanctifiée, parée, préparée, allant à la rencontre de son époux, étant haut de ses os, chair de ta chair, transformée à ton image. Seigneur, nous te faisons confiance. Encore aujourd'hui, nous faisons confiance à la puissance de ton sang, à la puissance de ta parole et à la puissance de ton esprit. Que tu puisses opérer en nous puissamment ces choses, ô Seigneur, si puissant que aucun domaine de notre vie pourrait se retirer de ton influence. Que tout notre être soit placé sur l'autel. Et que le feu divin puisse le consumer pour qu'un homme nouveau apparaisse selon l'image de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Sauveur, aussi pour cette réunion. Je te suis reconnaissant. Le temps est proche. Le temps est là. Seigneur, que nous puissions savoir. Laisse-nous savoir cela. Que nous en soyons conscients. Que cela nous pénètre. Tout l'être, toute l'âme, jusqu'à la moelle opinière. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la gloire, la louange et l'adoration dans toute éternité. Tiens-nous aujourd'hui par la main pour que aucun soupir, aucun reproche, aucune colère, aucune division, animosité, que rien n'existerait, que tout soit éliminé. Seigneur, nous nous soumettons sous ta main puissante, que ta vie par nous soit vécue, Seigneur. Le dernier tour a commencé. Le jour du salut. Le jubilé est là. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.